Bonjour, donc aujourd'hui on rencontre la LCR dans le cadre du troisième débat lancé à l'initiative de Alterne, Bellinux, Copyleft, Aptitude, Dogmazic, FDN, Flouzo et Parinux dans le cadre des municipales 2008 à Paris. On va commencer par le premier thème, fibre optique. Un premier point, le fait que ce sujet-là a bien sa place dans les municipales. Les collectivités territoriales ont pouvoir en matière de réseau de télécommunications. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent agir, ça veut dire qu'elles peuvent agir. Par exemple, en matière de réseau d'assainissement, c'est plutôt obligatoire, alors qu'en matière de réseau de télécommunications, c'est complètement optionnel. Pour le moment, le modèle de la fibre optique à Paris, pour faire simple, la politique municipale a été de permettre, c'est-à-dire de faire en sorte que les coûts pour accéder aux égouts ou aux fourreaux préexistants pour tirer de la fibre soient suffisamment raisonnables pour qu'il y ait une chance de voir une offre économique développée par les acteurs du privé. Avez-vous une position sur le sujet? Laquelle? Quelle est votre opinion en la matière?
Pour l'instant, la mairie de Paris n'a pas... On va dire que ce n'est pas son cheval de bataille principal. C'est à part effectivement ce que tu disais, juste permettre l'accès. Après, juste une petite précision quand même, c'est-à-dire que les municipalités peuvent aider au développement, etc. Mais si, dans l'article, notamment cité, je crois que tu as cité bien dans le truc de l'april, 1425, là, dans le respect de la libre concurrence du marché de la communication. Le premier engagement déjà, il est de pousser, d'instaurer un rapport de force pour permettre d'abord quelque part presque une préemption et un accès véritable pour après. Là, la mairie de Paris a permis l'accès à des opérateurs privés, mais ça pose la deuxième question, c'est qui gérerait un réseau de fibre optique? Est-ce que c'est des opérateurs privés ou est-ce que ce serait éventuellement, ce qui, j'ai pas l'impression que ça paraît chez beaucoup de candidats aux listes, un opérateur public.
Ce que permet l'article L1425.1 du Code des collectivités territoriales, en fait, il permet aux collectivités territoriales d'être opérateurs d'une infrastructure de télécommunication. Et la seule condition posée, il y en a eu autrefois, il y a eu des conditions beaucoup plus restrictives, disant que s'il y avait déjà un réseau du même type, vous n'avez pas le droit de s'installer pour pas que le public ne vienne pas faire concurrence au privé. C'est plus le cas. Maintenant, la seule condition, c'est que le réseau public soit accessible à tous les opérateurs qui le souhaitent dans les mêmes conditions. C'est pas très restrictif. Si la mairie devenait opérateur, que ce soit sous forme d'une régie, d'un syndicat, d'une société d'économie mixte, ou même d'une pure délégation de services publics, la mairie n'a pas le droit de vendre des abonnements aux particuliers. Elle n'a le droit que de louer son infrastructure à des opérateurs. Et elle doit louer à tous les opérateurs qui se présentent et aux mêmes conditions, c'est-à-dire aux mêmes tarifs à tous les opérateurs, que ce soit une multinationale qui vient pour raccorder 500 000 abonnés ou une PME du 20e arrondissement qui veut raccorder 35 abonnés dans un immeuble.
Pour nous, c'est bien ça la question, parce que on a vu ça, le principe d'égalité et de libre concurrence, hein, mais du coup, les questions qui se posent, nous, d'une façon plus générale, mais y compris en matière de communication et de circulation, l'information, tout ça, c'est la question du service public. C'est vrai que nous, quand sur la ville de Paris, on essaie que le plus de choses possibles dépendent du service public. Parce qu'il y a quand même le problème de la marchandisation de tout. Et voilà, alors.
Si j'ai bien suivi, ce n'est pas une interrogation de votre part, c'est un vœu d'avoir une régie publique pour la gestion de la fibre sur Paris.
Nous, ça, si, avec le reste de la discussion, ça nous semble plus cohérent si on pense que. Il faut aller quand même vers plus de services publics et les services publics, pourquoi? C'est garantir l'égal accès à tous les habitants et habitantes de Paris, en fait, justement, aux nouveaux médias, et ne pas rentrer dans une logique effrénée de concurrence. Alors au début on casse les coups et ou après ça augmente, quoi, voilà. Donc on est plutôt, nous, mais c'est à la limite, c'est, je veux dire, c'est pas seulement sur cette question-là, dans l'idée de tout ce qui peut faire partie d'un service public avec l'objectif unique, c'est l'égal accès, hein, à tout le monde. Donc en gros, que le prix ne soit pas un handicap.
Voilà. on aimerait bien que sur Paris, juste sur Paris, des fournisseurs d'accès locaux, il y en ait, je sais pas, 40 ou 50. Il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de fournisseurs d'accès que de bouchers. Il n'y a aucune raison que ce soit limité à une région municipale qui saurait tout faire de manière pas très claire, ou à un oligopole de 3 ou 4 noms qui traiterait tous les besoins de l'humanité en échange de quelques profits.
Ça peut paraître bien comme idée, je trouve, effectivement, d'avoir comme des bouchers, des fournisseurs d'accès, voilà, etc. Mais sauf qu'à Paris, la réalité sociologique de Paris, c'est qu'il y a le 16e arrondissement, le 8e arrondissement, et puis le 20e, le 19e et le 18e, etc. Ce qui veut dire que, de fait, les gens qui habitent le 16e arrondissement, vous allez acheter de la viande dans le 16e, elle ne coûte pas le même prix que dans le 20e.
Oui.
Donc du coup, même sur cette proposition-là, d'avoir des mini-régies privées ou associatives, en espèce de tiers secteur, quoi, comme on dit dans l'audiovisuel, de fait, ça garantirait pas l'accès de toutes et tous au même tarif.
Si l'infrastructure, si le réseau physique appartient à la mairie loue son réseau physique aux opérateurs,
oui.
À tous les opérateurs le même prix. C'est-à-dire que si une association veut faire fournisseur d'accès dans le 20e, elle achètera physiquement la fibre optique le même prix
que le 16e.
Que le 16e ou que la multinationale ou que. C'est-à-dire que si Monsieur Neuf ou Monsieur Orange vient louer 35 prises pour ses abonnés, il paiera le même nombre d'euros que si c'est une PME ou une association, etc. Donc ça permet de créer un équilibrage. Ça ne crée pas un équilibrage sur les services.
Voilà.
Ça crée au moins sur là où la mairie a le droit d'intervenir, c'est sur l'infrastructure. Il y a deux types de réseaux qui ont été construits sur cette base-là. Un premier exemple assez connu, c'est celui de Pau, qui est en fibre optique. Et là, qui est en fibre optique, qui est fait par la mairie et par délégation de services publics. Et l'autre exemple qui est intéressant à suivre, parce qu'il n'est pas fini de construire, c'est celui qui est en train de se monter dans l'Ain, où le syndicat intercommunal d'électrification de l'Ain est en train de poser de la fibre optique.
Ah, d'accord. Parce que pour en venir par rapport à la question associative, c'est toujours un débat qui a sur d'autres thématiques.
Oui.
Est-ce que c'est mieux que ça soit à service public ou est-ce que c'est mieux que ça soit association? Mais c'est quand on dit association, on est hors de la marge du marchand. De l'espace marchand, parce que le problème, c'est bien sûr que je pense à d'autres thématiques, par exemple sur est-ce que dans l'animation, que ça relève d'associations ou tout de la ville de Paris, tout ça, c'est toujours les mêmes débats, c'est-à-dire derrière ça, il y a l'idée de favoriser le côté associatif, moi j'ai pas de problème, mais en même temps il faut la garantie qu'il y ait un égal accès de tout le monde, bon, c'est ça, donc faut. Je pense qu'on pousser la discussion. Mais qu'est-ce qui garantit qu'à un moment donné, j'allais dire, les groupes, pas les associations, tout ça, voilà, c'est la question.
Les PME vivent dans un modèle qui est un mode de fonctionnement traditionnel capitaliste des entreprises. Et donc, elles finissent en général, tôt ou tard, par soit devenir suffisamment grosses pour racheter les autres, soit rester suffisamment petites pour être rachetées. Ça se termine assez vite avec quelques grands groupes. Une association, ça ne peut pas se racheter. Oui, ça n'a pas de capital à acheter.
Bien sûr.
Donc en général, c'est une garantie. Mais c'est pas une garantie absolue.
Depuis quelques années maintenant, la ville de Paris fait partie d'une association qui s'appelle l'ADULACT, et qui est une association qui regroupe les collectivités territoriales.
Même au conseil d'administration. Alors, même au conseil d'administration.
D'accord. Le but de cette association est de regrouper les collectivités qui ont un besoin commun pour développer une solution mutualisée. La ville de Paris est à la DULACT depuis quelques années et je me demandais si vous aviez l'intention de poursuivre la démarche, l'augmenter, la réduire.
Systématiser, ça voudrait dire à chaque fois que la mairie de Paris fait développer un logiciel pour ses besoins,
Elle
le met dans le domaine public.
D'accord.
Sous une licence libre. Donc permettant réutilisation, adaptation, y compris par une grande entreprise qui aurait le même besoin et qui du coup profiterait gratuitement de ce que la mairie a financé. Donc ça, ce serait systématiser la démarche, et puis l'arrêter, ce serait de dire la mairie est propriétaire de ce qu'elle a fait développer. Elle ne le donne pas à personne, et puis elle le vendra, si elle veut, à d'autres mairies pour essayer de rembourser ses faux frais.
Si on compare, par exemple, je ne sais pas, avec, avec l'eau ou avec les autoroutes publiques qui restent en plan ou des choses comme ça, quand il y a un truc public, effectivement, les usagers, c'est la gratuité de l'usager, moins de tarifs, c'est les services publics. Par contre, quand c'est utilisé pour des grosses entreprises, bah, si je prends l'exemple de l'autoroute pour aller au Disney, l'autoroute pour aller, etc., évidemment, le tarif n'est pas le même. C'est ce qui est public, ce qui appartient, ce qui est développé par la régie, par la mairie de Paris, etc., théoriquement, appartient bah, à ceux qui financent la mairie de Paris, c'est-à-dire les habitants et habitantes de Paris. Donc c'est logique que ça leur revienne. Là-dessus, aucun problème avec les clients. Le deuxième truc, c'est par rapport aux entreprises installées hors Paris, en l'occurrence, que là, il y a de fait forcément une somme forfaitaire qui ne soit pas la même que, enfin, qu'une somme forfaitaire qui fait que ce qui est développé pour Paris dans le cadre d'un service public puisse être exporté, donné sans problème à d'autres services publics. Pour des entreprises privées, qu'il y ait une différenciation à ce niveau-là.
Soit les logiciels en question ne sont pas libres, et en général, dans ces cas-là, ils sont repris par personne. Et donc la question de savoir à quel prix ils seraient repris ne se pose pas tellement.
Par exemple, si la ville de Paris développe un logiciel de gestion de crèche, mmh. et qu'il est intéressant, ça peut permettre aussi à des collectivités territoriales moins riches dans d'autres pays, en ayant besoin de pouvoir aussi peut-être utiliser le logiciel. La différenciation, c'est que par contre, il faudra toujours des informaticiens pour savoir utiliser le logiciel ou des personnes qui connaissent le logiciel. En fait, on est un peu sur deux économies différentes. On est dans une économie où, d'une part, on va payer des gens pour le service, puisque un logiciel qui fonctionne, même s'il y a un développement, on a toujours besoin de gens pour l'utiliser, mais on n'est pas sur une production où, en fait, on développe un logiciel et au fur et à mesure, le travail a été fini, mais on le revend toujours. Donc, c'est pas neutre comme question en termes de choix, déjà de services publics pour les Parisiens, mais même pour d'autres pays éventuellement.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement pour les Parisiens que ça va changer quelque chose. C'est-à-dire que le logiciel de gestion de la crèche, il coûte sensiblement le même prix qu'on le fasse en libre ou pas en libre, il rendra sensiblement le même service, la crèche sera ni plus chère ni moins chère au final. Ça va avoir des conséquences en dehors.
Oui, enfin, ça se discute parce que c'est moins vrai pour Paris, mais il y a un certain nombre de logiciels qui ne sont pas à la portée d'une municipalité.
Oui.
Ils sont obligés d'être plusieurs parce qu'il faudra avoir une
faut
somme
telle. Parce que ça fera une somme.
Tout simplement parce que le coût n'est pas finançable par une seule municipalité.
Avec l'intercommunalité, je pense que c'est des choses aussi. Même Paris, c'est un statut spécifique.
Ouais, Paris,
mais si on regarde l'intercommunalité, j'imagine qu'ils doivent réfléchir à des choses de cet ordre-là.
Quand une municipalité met à disposition de ses habitants des documents, des vidéos, du contenu artistique, ce serait bien que tous les citoyens puissent, avec les moyens qu'ils ont chez eux, ouvrir ce document, lire cette image, regarder cette vidéo. Et en général, ces documents sont fournis dans un format que seul un logiciel particulier, peu importe lequel, puisse ouvrir. On part du principe que si on utilise un format ouvert, n'importe quel logiciel et enfin n'importe quel éditeur de logiciel est à même d'implémenter ce format de fichier et donc de proposer à ses utilisateurs d'ouvrir correctement le fichier en question.
En plus, sur l'interopérabilité, il n'y a aucun souci. Voilà, on l'a défendu à l'encontre de la loi d'APSI, donc on défend. Sur tous les supports, que ce soit la musique, l'informatique, etc. Et pour le coup, c'est un truc sur lequel les municipalités devraient s'engager. C'est-à-dire, ça devrait faire partie d'un projet municipal de dire, nous, en tant que municipalité, et puis on l'espère même au-delà, l'administration centrale en France, hein, les impôts, enfin tout, n'importe quoi, que tout ce qui est public soit sous le régime de l'interopérabilité, quels que soient les documents, que ce soit les impôts nationaux, que ce soit les trucs de permis de construire, que ce soit. Voilà.
Actuellement, donc, il n'y a pas eu de. Concrètement, de réelle migration des postes de la ville, des postes de travail donc de la ville ou de l'informatique de manière globale de la ville vers le logiciel libre. Il y a des choses qui ont été faites partiellement localement, mais est-ce que vous avez des engagements à prendre sur ce sujet-là?
fait, oui et non. Oui, dans le sens où, contrairement à ce qui a été même récemment fait, hein, parce qu'il y a, je crois qu'il y a c'est un maire de Paris qui a signé un partenariat avec une entreprise qui développe une marque et un type de logiciel précis, pour le coup que les outils utilisés par les employés des services municipaux de la mairie, etc., soient sous format libre, c'est plutôt... voilà, je vois le rapport, le partenariat avec Microsoft qui est là sur le bureau, mais ça, évidemment, c'est plutôt quelque chose qu'on défendrait. Par contre, malheureusement, enfin, par contre, de fait, comme aujourd'hui, et ça, on peut le regretter, la plupart des gens, et particulièrement ceux qui n'ont pas encore accès aux connaissances, amener un autre débat sur l'éducation, n'ont pas encore accès aux connaissances. De fait, quelqu'un qui se met à l'ordinateur, qui découvre le monde informatique, malheureusement, la première chose qu'il va découvrir, c'est Microsoft. Donc, le rôle d'une mairie, ce serait aussi non seulement d'abord de défendre, c'est-à-dire d'avoir une initiative pour défendre le libre, donc de le faire d'abord en interne, mais aussi de faire venir ceux qui sont sous licence, enfin propriétaires sous Microsoft, et donc d'être en capacité de s'adresser à eux. C'est-à-dire de faire venir ceux qui utilisent déjà Microsoft pour faire le logiciel libre.
Ça suppose que les premiers morceaux à migrer seraient en premier lieu les centres de formation.
Exactement.
Et en second lieu, probablement les espaces publics numériques, histoire d'expliquer aux concitoyens comment ça marche. Un plan de migration sur une ville de la taille de Paris, c'est quelque chose d'énorme. C'est des milliers de postes, c'est des dizaines d'administrations différentes, avec des logiciels différents, avec des habitudes différentes, avec... voilà, c'est quelque chose de colossal. La gendarmerie, qui est quand même un petit peu plus grosse que la mairie de Paris en termes de nombre d'employés, petit un n'a pas fini sa migration, et ça fait 3 ans qu'ils ont commencé. Ils ont commencé, si ma mémoire est bonne, par le navigateur internet. Ensuite, ils ont pris le logiciel de messagerie, ensuite il y a eu la suite bureautique. Là, ils en sont à basculer le poste de travail. On a bien compris que vous y étiez favorable, mais dans vos priorités, je ne sais pas si c'est une priorité importante ou pas pressée.
Il y a deux utilités. Il y a une utilité presque politique qu'on défend, c'est-à-dire celle du livre, ou philosophique même. Mais il y a une autre utilité aussi, c'est que, y compris ce qui se passe à la gendarmerie, faire une migration, surtout à l'échelle de Paris, on ne fait pas comme ça, on en parlait tout à l'heure sur les autres pays, transférer les autres pays, avec ça crée des emplois. Donc non seulement il y aurait une utilité politique, mais il y aurait une utilité économique, notamment en matière de chômage, sur Paris. C'est-à-dire qu'une migration à telle échelle, oui, pour le coup, on le défend, parce qu'il y a deux utilités. Il y a l'utilité vraiment directement politique et l'utilité économique voilà, pour les...
Si on en revient un peu sur l'éducation populaire, un peu canal historique, seconde et troisième république, quand ça s'est créé, il y avait vraiment une fracture sociétale avec des gens qui savaient lire et écrire et des gens qui ne savaient pas lire ni écrire. Il y avait clairement des citoyens qui pouvaient comprendre les enjeux à un moment donné, prendre des décisions, et d'autres citoyens qui ne pouvaient pas. Et donc à un moment donné, l'éducation populaire avait aussi, et notamment ça s'est créé dans plein de mouvements, mais dont un mouvement que vous connaissez certainement, enfin, plus ici, qui était comment on forme à un moment donné les ouvriers à comprendre leurs enjeux, et qu'à un moment donné, il y a l'éducation populaire pour comprendre des choses qui sont super complexes. Hein, on lit le Capital de Karl Marx entre valeurs d'usage et valeurs d'échange, c'est pas simple, et ça a été fait. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on arrive à une révolution des nouvelles technologies, on est à tous des objets comme ça, des téléphones portables, où il y a embarqué du logiciel, de l'électronique, et on s'aperçoit que finalement il y a des gens qui comprennent, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. On peut considérer que pour nous, dans notre association Bélinux, on est sur une analogie qui est pareille. On considère qu'actuellement il y a une fracture forte sociale entre des gens qui comprennent les enjeux des nouvelles technologies et des gens qui ne comprennent pas. La première chose qu'on a envie de vous poser, c'est que si par exemple sur les EPN ou les établissements, est-ce que vous seriez partant justement qu'on les revoie et qu'on revoie leur mission de façon à ce qu'on puisse apprendre, par exemple, pourquoi on s'intéresse au logiciel libre, par exemple, je me suis fatigué, c'est que dans un logiciel libre, vous avez à la fois le programme, et vous avez aussi du code source. Donc vous avez une intellectualisation qu'un enfant, s'il est curieux, il peut comprendre. Quand vous ouvrez une page web, vous avez du HTML. C'est-à-dire que vous rentrez dans des processus qui vous permettent de comprendre intellectuellement ce qui est en train de se jouer. Donc le rôle pour nous d'un EPN, c'est de former non pas à forcément dans un premier temps d'usage, mais à comprendre les enjeux de comment et qu'est-ce que c'est cette science-là pour pouvoir intellectuellement penser ces changements.
Il se trouve que moi je suis éducatrice de profession. Bon. On voit bien les inégalités. Un môme qui depuis petit a, alors après avec une connaissance plus ou moins de départ, mais qui rentre dans une certaine, enfin je ne sais pas si on dit le mot système, mais une utilisation et tout, ça ne veut pas dire forcément d'ailleurs que les parents ont tout intégré loin de là, mais il y a quand même une facilité de se servir d'un ordinateur, d'essayer de comprendre, enfin bon, on voit ça, je veux dire, autour de nous, les ados qui s'y mettent tout dedans et puis qui élaborent autour de ça. Bon, moi je peux dire pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, y compris d'avoir un ordinateur chez soi, soit parce qu'il y a l'aspect financier, je trouve que je travaille sur Paris, donc auprès de la population la plus précarisée, hein, donc c'est pas vrai que tout le monde a un ordinateur chez soi. Et deuxième question, si à l'école en plus il n'y a pas, parce que suivant les établissements scolaires, les installations ne sont absolument pas les mêmes, hein, il y a des écoles qui fonctionnent avec des ordinateurs et d'autres avec pratiquement pas d'ordinateurs, c'est toujours comme ça, une inégalité. Ces enfants qui vont devenir des ados et tout ça, je parle plus pour l'avenir. Hein.
De l'accès.
De l'accès, voilà. Et donc après, bon, moi c'est plus cet aspect-là que j'entends. Après, sur, c'est vrai, sur la question de se former ou de comprendre ou d'appréhender, j'ai l'impression qu'il y a un grand vide, moi.
La première chose qui paraîtrait importante de faire, ça serait de revoir à un moment donné ce qui se passe d'une façon concrète et qu'on puisse justement former des lieux d'éducation populaire qui ne forment plus dans un premier temps aux usages, qui sont importants, hein, qu'il ne faut pas oublier parce que les usages c'est très concret, mais qui permettent également de former à comprendre ce qui est en train de se jouer au niveau des nouvelles technologies. Ça veut dire que c'est important à un moment donné que si Internet c'est l'endroit où je dois trouver du travail, c'est l'endroit où je peux rencontrer quelqu'un, c'est l'endroit où je peux acheter des choses, c'est l'endroit où on peut délocaliser mon travail sur une partie de la production. C'est ce qu'on voit actuellement sur beaucoup d'offres, vu qu'actuellement on est en train de sous-traiter la saisie des comptes bancaires par exemple au Maroc ou ailleurs. Bah, c'est fondamental que non seulement les enfants, mais aussi les mamans dans les quartiers, les parents, tout le monde, sont en capacité de comprendre ce qui se joue. Et donc, première mission, déjà, être en capacité de faire de la médiation scientifique, technologique, lourde. Voilà, ça c'est pour nous un des enjeux très importants des établissements de public numérique. Deuxième enjeu, c'est les usages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut former des gens, donc justement, ça, on sait qu'on est quasiment d'accord, c'est-à-dire qu'on ne privilégie pas un logiciel plutôt qu'un autre, et qu'on apprenne bien, toujours dans cette démarche-là, au public à utiliser des pratiques de travail sur des logiciels, mais qu'ils puissent justement évoluer. Ça veut dire que, grosso modo, on voit qu'il y a des logiques qui sont à peu près semblables à tous les ordinateurs. Par exemple, le copier-coller, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs logiciels. Pour nous, ce qui est important, c'est que les personnes sachent, par exemple, se situer dans un menu de navigation, sache que dans édition, souvent, il y a copier-coller, et puisse le faire sur tous les logiciels, à la rigueur, qu'ils pourraient utiliser, qu'ils soient capables de s'auto-former, ce qui pourrait être pour nous la deuxième mission d'un EPN. Et la troisième mission, c'est d'anticiper, de penser la solidarité numérique. Ça veut dire qu'on s'aperçoit qu'actuellement, il y a des gens dans son immeuble qui savent parfaitement réparer un ordinateur, d'autres ne savent pas. Et nous, on pense qu'à quelle heure actuelle on va arriver, parce qu'on est sur une surconsommation, il y aura de plus en plus d'ordinateurs qu'on peut donner et récupérer. Ce qu'il faut encourager, c'est des espaces où on peut justement faire de la solidarité numérique de quartier, de l'échange de compétences. À ce moment-là, on n'est plus sur des établissements publics numériques avec un animateur qui anime une salle informatique. On est confronté à un animateur d'espace public numérique qui anime un projet de territoire numérique tel qu'on vient de le décliner. Voilà. Est-ce que ça vous parle et vous intéresse ?
On ne pourra pas, sur les EPN, enfin les établissements publics numériques, on ne pourra pas avancer tant que la fracture, la précarité en tout cas, sociologique, continuera à exister telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, rien que dans un établissement scolaire, il y a des gamins qui n'ont jamais vu d'ordinateur de leur vie. Donc le premier truc, c'est d'abord de jouer au premier endroit où les gamins, les enfants sortent et elles sont amenées à pouvoir rencontrer l'informatique, c'est-à-dire l'éducation. Et là, en éducation, pour l'instant, ce qui a été fait, c'est plutôt l'inverse. Que ce soit la directive langue en 2001, que ce soit toutes les opérations, je ne sais pas comment ça s'appelait, la Tour de France des collèges, des trucs comme ça, où c'était pour sensibiliser les gamins à l'informatique, enfin avec Microsoft, une belle page de pub de Microsoft dedans, etc., puis pas un mot sur les logiciels libres, évidemment. Donc là, pour l'instant, le choix qui est fait au niveau de l'éducation, que ce soit par les municipalités, qui gèrent notamment par exemple, les cantines, des trucs comme ça, c'est pas du tout, c'est un choix de simplement apprendre à servir de Microsoft, en gros, si je caricature un peu. Donc le choix, déjà, en premier, ça devrait être ça, ça devrait être d'apprendre, d'être sensibilisé dans tous les quartiers, dans toutes les écoles, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, sans préjuger en ce qu'on appelle la neutralité scolaire, quoi. Sans préjuger sur le logiciel à utiliser. Et donc, même y compris, en formant dès le début, en intéressant dès le début à la notion de libre. C'est-à-dire de dire, voilà, il existe plusieurs outils. Servez-vous-en, apprenez à vous en servir. Et après, dans une deuxième logique, effectivement, de vous intéresser à ce qu'il y a dans le contenu. C'est-à-dire s'intéresser à la démarche, je disais, un scientifique sur... Qu'est-ce que c'est qu'un code source? Qu'est-ce que c'est des pages HTML? Bon, j'ai appris à cliquer sur. Alors, j'ai appris qu'il y avait Explorer, Firefox, machin, etc. Mais comment ça marche? Ça se ferait déjà dans un deuxième temps. Et ce qui. Et développer vraiment des EPN, un peu sous le principe des conservatoires. Enfin, l'idée qui a été intéressante, c'est à la fois sur le principe des conservatoires municipaux, c'est-à-dire dans chaque quartier, il y a un lieu ouvert, gratuit, de formation, etc. Là, ça existe un peu, mais c'est un peu des espèces de cours du soir, un peu. Si vous avez déjà vu les trucs, voilà, qui sont faits dans des lycées, avec y compris des vieux ordinateurs. Donc d'avoir des pôles multimédia, enfin des vrais EPN pour le coup, sous la forme de conservatoire, ou ce qu'on veut, en tout cas libre, gratuit, d'accès, etc. Et l'idée qui était intéressante surtout, c'est en dehors de. Les gens viennent aux EPN, que les EPN aillent. C'était ça qui était intéressant, je trouve aussi. Et que les EPN aillent s'occuper, y compris dans les quartiers. Je ne sais pas si c'est très clair. Parce que... C'est-à-dire que pas simplement d'avoir un lieu où les gens viennent tapoter sur ordinateur et apprendre avec des animateurs, des formateurs, etc., mais vraiment aussi que les établissements numériques publics aillent les EPN,
se déplacent,
y compris voilà, dans tel immeuble, venir faire, j'en sais rien, une journée, une fête, présenter. Etc. Et donc y compris dans les établissements scolaires. Et en plus, tout est tronqué, c'est-à-dire que le premier accès à l'informatique ou au multimédia que peuvent avoir les enfants, ils l'auront essentiellement par la télé. Et par la télé, ce qui passe à la télé, c'est pas le logiciel libre, c'est pas...